vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Dragon Ball Sparking Zero. On aura les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. On parlera ensuite d'une news concernant le jeu The Witcher, le prochain à sortir. Et on terminera l'émission avec une news technologie avec des lunettes intelligentes qui préviennent les crises d'épilepsie. Donc on terminera effectivement sur cette news technologie, puisque vous vous en doutez, avec les fêtes de fin d'année, il n'y a pas de sortie jeux vidéo de la semaine. Il va falloir attendre l'année prochaine. Voilà, on va pouvoir tout de suite commencer avec le test de Dragon Ball Sparking Zero. Donc c'est un jeu vidéo de combat qui est jouable en solo et à deux joueurs. Il a été produit par Jun Furutani, développé par Spike Chunsoft et édité par Bandai Namco Entertainment. Il se déroule dans l'univers fictif de la saga Dragon Ball. Il est sorti le 10 octobre 2024 au Japon, puis le lendemain, le 11 octobre, à l'international, sur PlayStation 5, Xbox Series et Windows. Dragon Ball Sparking Zero prend la forme d'un jeu de combat en 3D et propose un grand casting de personnages, jouables, qui couvre les différentes séries tirées de l'œuvre d'Akira Toriyama, de Dragon Ball Z à Dragon Ball Super. Cet épisode est la suite directe du jeu Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, qui est sorti 17 ans auparavant sur PlayStation 2, donc en 2007, même s'il porte un nom différent. Le jeu est classé PEGI 12 et il obtient une note de 16 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 81 sur 100 sur Metacritic. Donc 2024 est une année majeure pour Dragon Ball. Si on fête les 40 ans du manga, c'est aussi l'année où son créateur Akira Toriyama nous a malheureusement quittés. Comme œuvre posthume, les femmes pourront découvrir la nouvelle série animée Daima et en plus un jeu vidéo qui célèbre tout Dragon Ball dans une même expérience, Dragon Ball Sparking Zero. Alors que le manga original est fini depuis presque 30 ans, Dragon Ball continue d'être toujours aussi populaire de nos jours. Que ce soit en manga avec Dragon Ball Super, au cinéma avec Super Hero et bientôt en animé avec Dragon Ball Daima, il y a de quoi faire pour les fans d'Akira Toriyama qui font encore leur deuil après la disparition de l'auteur. Malgré ça, ces derniers ont été gâtés niveau jeux vidéo ces dernières années avec des titres comme Xenoverse 2 qui continue d'être mis à jour, Kakarot et surtout le spectaculaire FighterZ. Pourtant, malgré tous ces titres, les fans n'ont cessé de réclamer pendant des années un nouvel épisode de la franchise Budokai Tenkaichi. 17 ans après la sortie de Budokai Tenkaichi 3, la saga fait son grand retour avec Dragon Ball Sparking Zero, qui n'est autre que le Budokai Tenkaichi 4 que tout le monde attendait, mais avec un nom différent. Alors que Bandai Namco a fait une communication maîtrisée autour du titre et a hypé tous les fans de la licence, est-ce que Sparking Zero est aussi bon que ses prédécesseurs, voire même est-il le jeu Dragon Ball ultime pour mettre tout le monde d'accord ? A la star des précédents épisodes, Sparking Zero est un jeu de combat en arène dans lequel on peut se déplacer librement, aussi bien au sol que dans les airs. Dès qu'on a la manette en main, on comprend que le titre est un digne héritier des Budokai Tenkaichi, tant il reprend la base de leur gameplay. Donc clairement, ceux qui y ont joué sur PS2 ou sur Wii seront comme à la maison. Ainsi, on retrouve un bouton pour attaquer au corps à corps et faire des combos, un autre pour lancer des Kikora, une touche pour garder en plus d'un autre pour dasher, et on a la gâchette qui sert à déclencher des capacités. Dans le détail, chaque personnage a deux techniques spéciales qui consomment du ki et deux autres qui utilisent des points de compétence, ainsi qu'une attaque ultime lorsqu'on est en mode sparking. Avec tout ça en main, Sparking Zero propose un gameplay plus technique qu'il n'y paraît, digne de Budokai Tenkaichi 3. Dire qu'on peut se contenter de marteler un bouton pour gagner serait mentir, et l'intelligence artificielle vous le fera vite comprendre, en évitant vos téléportations automatiques. En réalité, on retrouve de nombreux paramètres offensifs et défensifs à prendre en compte pour maîtriser les mécaniques du jeu, avec aussi bien une garde haute, une garde basse, des esquives, des attaques téléportées ou encore de suivi. Plus que jamais, la gestion des ressources est ici la clé pour l'emporter, à commencer par la jauge de ki qui sert autant pour les techniques que pour esquiver ou dasher. En plus de cette mécanique, Sparking en introduit une inédite avec la réserve de points de compétence. En gros, ces derniers se génèrent automatiquement lors du combat et servent aussi bien à déclencher des techniques qu'à se transformer, changer de personnage ou encore passer dans un état pour profiter de bonus. Avec tout ça, le gameplay est donc plus complet que jamais et demande une vraie maîtrise pour en profiter, laissant une marge de progression aux joueurs. Mais en attendant d'y arriver, rassurez-vous, Sparking Zero propose de nombreuses options d'accessibilité, histoire de faciliter la prise en main des débutants pour du fun instantané, avant de maîtriser les mécaniques comme il faut. Si la complexité du système de combat de Sparking Zero fait sa richesse, il est tout de même desservi par son mode entraînement, qui est loin d'être à la hauteur. Pour vous donner un exemple, la mise en application d'une action et son explication ne se font pas en même temps, ce qui complique l'apprentissage. Ce mode entraînement est tout sauf pratique et ergonomique, ce qui est vraiment dommage vu la technicité du gameplay. Mais en dehors de ça, le titre souffre de problèmes de lisibilité comme ses prédécesseurs finalement. Régulièrement, la caméra se bloque dans les éléments du décor, sous le niveau, et a souvent du mal à suivre l'action quand elle commence à s'énerver dans les environnements destructibles. Il faut donc un petit temps d'adaptation, histoire de ne pas se sentir trop perdu. Comme tous les jeux de combat modernes, Dragon Ball Sparking Zero propose un mode multijoueur. En local, d'un point de vue technique, l'expérience tourne aussi bien en solo et l'écran est scindé en deux pour que chacun profite de la même lisibilité. En revanche, le titre ne propose qu'une seule arène, à savoir la salle de l'esprit et du temps, sûrement car les autres environnements destructibles sont plus compliqués à gérer techniquement. Une vraie occasion manquée donc, mais on espère que de nouvelles arènes seront ajoutées à l'avenir. Si Sparking Zero a tant fait saliver les fans de Dragon Ball, c'est évidemment pour ses graphismes impressionnants. Donc rassurez-vous, dans le jeu final, le rendu en met autant plein les yeux que dans les trailers. D'abord, cela passe par les nombreux effets à l'écran qui rendent particulièrement bien grâce à l'Unreal Engine, le moteur du jeu. Clairement, les auras des personnages et les rayons d'énergie sont plus spectaculaires que jamais et participent grandement à l'effet waouh de l'expérience. Pour couronner le tout, le titre fait la part belle au fanservice avec des coups à la mise en scène directement inspirée de l'anime. Que ce soit en termes de pose ou de rythme, on retrouve la plupart des techniques iconiques de Dragon Ball. Une chose est sûre, c'est que Sparking Zero impressionne visuellement, malgré les soucis de lisibilité dont j'ai parlé. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test, on va s'écouter une musique extraite de l'OST du jeu Dragon Ball Sparking Zero. C'est la musique Climax et on reviendra juste après pour la deuxième partie de ce test. c'était la musique Climax, une musique extraite de l'OST du jeu Dragon Ball Sparking Zero. On continue donc avec la deuxième partie de ce test. Donc si les combats du titre en mettent plein les yeux, on ne peut pas en dire autant de ses menus et de son interface. L'écran de sélection des personnages affiche un style rudimentaire et jure avec le soin des graphismes en jeu, tant il est basique au possible. Même chose pour ce qui est des menus en général qui sont d'une grande banalité, ce qui a des allures de retour en arrière quand on connaît la qualité de ceux de Budokai Tenkaichi 3. Dans Sparking Zero, on a clairement la sensation que certains aspects ont fait l'objet d'un plus grand soin que d'autres, et fort heureusement, les parties les plus importantes n'ont pas été négligées. Donc quand je dis ça, je pense évidemment à la taille du casting du titre, qui a de loin été son plus grand argument commercial. Avec plus de 180 combattants au compteur, Sparking Zero est le jeu Dragon Ball qui propose le plus grand nombre de personnages jouables au lancement. Le mieux dans tout ça, c'est qu'on retrouve aussi bien des visages de Dragon Ball Z et de Super que de GT et des films, alors qu'on aurait pu imaginer qu'ils soient réservés aux DLC. Mais non, on a là un énorme roster dès la sortie du jeu, même si on sait que des DLC sont déjà prévus pour Super Hero et Daima par exemple. Avec un tel contenu, il a fallu uniformiser le rendu de tous ces combattants créés sur près de 40 ans. Résultat, on a le droit à un style qui rappelle celui de Naohiro Shintani, donc de Dragon Ball Super Broly, qui fonctionne ici très bien. Si certains personnages sont plus ou moins réussis, il faut quand même reconnaître que l'écrasante majorité du casting profite de modèles qui ressemblent à l'animé. En plus, le titre essaie de rester fidèle à l'œuvre en respectant les niveaux de puissance des personnages. Donc sans trop de surprise, il ne faudra que quelques coups à Broly pour mettre à terre Shao Zhu par exemple. Pour ce qui est de son contenu solo, Sparking Zero permet évidemment de faire des combats contre l'intelligence artificielle ou encore des tournois qui reprennent les règles de ceux du manga et de l'anime. Mais au-delà de ça, le titre propose un mode épisode qui cherche à se différencier du traditionnel mode histoire. Concrètement, ce dernier est découpé par personnage au nombre de 8, dont on va revivre les aventures. Pour Goku par exemple, cela va de l'arrivée de Raditz sur Terre au tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super. Cependant, l'originalité de ce mode est de proposer des scénarios alternatifs en cas de réussite des objectifs secondaires de certains combats. Donc pour vous donner un exemple, si vous parvenez à vaincre Raditz sans que Goku ne se sacrifie, alors vous débloquez un segment où Goku est en vie avant même que Vegeta et Nappa débarquent sur Terre. Si ce genre d'alternative donne parfois lieu à un seul petit combat, d'autres fois on accède carrément à une série d'affrontements qui se suivent et racontent toute une histoire inédite. De ce point de vue-là, ce mode épisode est sympathique pour ses idées scénaristiques originales et surtout pour le challenge qu'il propose. Pour débloquer les scénarios alternatifs, vous devez donc réussir les objectifs secondaires en difficulté normale, ce qui est loin d'être facile vu le niveau de l'intelligence artificielle. Pour surmonter cette barrière, vous pouvez mettre à vos personnages des capsules qui servent ici d'équipement pour améliorer leurs statistiques ou renforcer l'une de leurs actions. Donc si sur le papier, ce mode épisode a l'air sympathique, il est malheureusement plombé par la mise en scène de ses cinématiques. Durant les dialogues, les échanges sont souvent statiques et les personnages à peine animés, ce qui n'aide pas à se sentir impliqué. Clairement, ce n'est pas un bon moyen de rattraper l'histoire de Dragon Ball pour ceux qui ne la connaissent pas. Et en plus, le titre ne profite même pas de la voix d'un narrateur pour raconter ce qu'il se passe entre deux scènes, qui ont parfois l'allure d'un diaporama, tant on fait face à des écrans fixes. Sans trop de surprise, les cinématiques souffrent de la comparaison avec celle de Kakarot, qui adaptait à la perfection les moments clés de l'œuvre. Heureusement que le jeu n'a pas que cela à offrir en solo. En plus des épisodes, Sparking Zero propose un mode combat personnalisé qui se divise en deux segments. Donc d'un côté, il s'agit de combats créés par les développeurs qui mettent en scène des petites histoires originales qui n'ont rien de canon. Donc si ces niveaux bonus sont au nombre de 37, ils ont surtout pour but de servir d'inspiration pour les joueurs afin de fabriquer les leurs grâce à un outil particulièrement complet. Avec le mode combat personnalisé, les joueurs peuvent créer leur propre scénario de A à Z en personnalisant chaque aspect. Cela va de la mise en scène de l'introduction au carton de présentation, en passant par les effets qui vont se déclencher durant l'affrontement jusqu'à la cinématique de fin en cas de victoire ou de défaite. Pour ce faire, le titre met à la disposition un outil qui permet de régler de nombreux paramètres, que ce soit la pose des personnages, leurs expressions, mais aussi les dialogues avec une sélection de répliques déjà écrites dont on peut changer certains mots. Après ça, on peut déterminer des effets à déclencher en fonction de certains critères et de situations précises. Donc une fois complété, vous devez terminer votre propre niveau pour le valider avant de le publier en ligne, un peu comme Super Mario Maker. Avec un tel outil, Sparking Zero s'assure donc une durée de vie quasiment infinie grâce aux joueurs dont on a désormais hâte de découvrir les créations originales. Donc on est sûr que certains vont créer des sagas inédites géniales, voire même meilleures que le mode épisode. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a le plus grand casting d'un jeu Dragon Ball au lancement, un gameplay plus riche qu'il n'y paraît comme Budokai Tenkaichi 3, des options d'accessibilité pour que tout le monde s'amuse, la mise en scène des coups qui est spectaculaire et digne de l'anime, des combats visuellement impressionnants et pleins d'effets, un mode épisode avec quelques bonnes idées et surtout du challenge, et un outil très complet pour créer ses propres combats et les partager. Pour les points faibles, on a un manque de visibilité globale et des problèmes de caméra, la mise en scène plate des cinématiques qui gâchent le mode épisode, un mode entraînement qui aurait gagné à être plus clair et pratique, une seule arène en mode multijoueur local au lancement et une interface ainsi que des menus au style rudimentaire. Voilà, du coup pour terminer le test de ce jeu Dragon Ball Sparking Zero, on va s'écouter tout de suite une autre musique extraite de l'OST. Donc c'est Swirling Chaos et on revient juste après.
Vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place eSports FC 25 sur Nintendo Switch, un jeu de Electronic Arts. En quatrième place, c'est Call of Duty Black Ops 6 sur PS5, un jeu d'Activision Blizzard. En troisième place, on a Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En deuxième place, c'est Super Mario Party Jamboree sur Nintendo Switch, encore un jeu de Nintendo. Et en première place, c'est EA Sports FC 25, mais cette fois sur PS5. Le top 3 pour la PS5, on a donc en 3ème place Dragon Ball Sparking Zero, en 2ème place c'est Call of Duty Black Ops 6, et en 1ère place EA Sports FC 25. Pour la Xbox Series, on a en 3ème place Star Wars Outlaws, en 2ème place c'est Call of Duty Black Ops 6, le bundle CrossGen, et en 1ère place c'est EA Sports FC 25. Pour la PS4, on a en 3ème place Gran Turismo 7, en 2ème place c'est Call of Duty Black Ops 6, l'édition bundle CrossGen, et en 1ère place on a EA Sports FC 25. Pour la Xbox One, on a en 3ème place Red Dead Redemption 2, en 2ème place Grand Theft Auto 5, l'édition Premium, et en 1ère place Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en 3ème place Farming Simulator 25, l'édition Collector. En 2ème place, c'est Stalker 2 Earth of Chernobyl, l'édition Collector. Et en 1ère place, c'est Farming Simulator 25. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Donc le 26 novembre dernier, le studio polonais CD Projekt a pris la parole, multipliant les révélations sur tout un tas de sujets à l'occasion de leurs commentaires sur les résultats financiers du trimestre précédent. Parmi tout ce qui a été évoqué, on retrouve bien évidemment les ambitieux projets vidéoludiques du studio, à l'image du prochain jeu de la saga The Witcher. Et à ce propos, CD Projekt avait une déclaration de la plus haute importance à faire. Donc au cours d'une année, les prises de parole de certains studios de développement se comptent au mieux sur les doigts d'une main. Du moins, c'est le cas du studio polonais CD Projekt. Toutefois, ce n'est pas parce que le studio se veut discret qu'il n'en est pas moins loquace. La journée du 26 novembre nous l'a bel et bien démontré. Donc à l'heure du bilan des résultats du précédent trimestre et de son exercice fiscal, le studio CD Projekt avait préparé quelques visuels et des annonces qui ont rapidement fait le tour de la toile et des réseaux sociaux. Au cours de cette séance de questions-réponses, tout un tas de choses ont été évoquées, donc cette réunion a été l'occasion de s'exprimer sur des sujets variés et pas uniquement en lien avec le jeu vidéo. En 2022, CD Projekt s'essayait en compagnie de Netflix à une autre forme de divertissement avec la série d'animation Cyberpunk Edge Runners. Finalement, cette idée d'étendre l'univers cyberpunk sur d'autres projets fut salvatrice, puisqu'il y a même eu un regain d'intérêt pour Cyberpunk 2077 à l'époque. CD Projekt souhaite reproduire ce succès et compte aussi varier ses approches, notamment avec la production d'un gros projet live-action qui pourrait prendre la forme d'une série ou d'un film. Donc lorsqu'on voit ça, on se dit que l'univers de la franchise Cyberpunk au sein du studio CD Projekt a de beaux jours devant lui. Cependant, après plusieurs années à retaper Cyberpunk 2077, les nouvelles déclarations du studio polonais nous prouvent que le jeu est bel et bien derrière eux, quand bien même le prochain chantier dans cet univers, caché derrière le nom de code Orion, occupe une soixantaine de développeurs à l'heure actuelle. Dorénavant, le regard de CD Projekt se porte en direction de la saga The Witcher, celle qui lui a permis de se tailler une solide réputation dans le monde du jeu vidéo. Depuis quelques mois, on sait pertinemment que CD Projekt prépare la nouvelle ère des jeux de la saga The Witcher, presque 10 ans après l'avoir conclu avec le troisième volet sous-titré Wild Hunt. Donc pour le moment, on ignore l'approche du studio polonais sur la suite des adaptations du Sorceleur, mais on sent que les choses progressent de plus en plus. Suite à la session de questions-réponses, CD Projekt a confirmé que le projet Polaris, ou The Witcher 4 en attendant d'en connaître le nom, venait de franchir une étape cruciale. Le titre entre dans sa phase de production et bénéficie d'une très large main-d'œuvre qui atteint les 400 développeurs à la date du 31 octobre dernier. Donc certes, l'annonce est importante, mais cela veut surtout dire qu'il va encore falloir attendre un long moment avant de pouvoir y jouer. Donc rendez-vous peut-être en 2027. On passe maintenant à la news technologie, et c'est ce qui va terminer l'émission de cette semaine. Donc on va parler de lunettes intelligentes qui préviennent des crises d'épilepsie. Afin d'améliorer le quotidien des personnes photosensibles, des scientifiques britanniques ont mis au point des lunettes intelligentes qui sont capables de filtrer les longueurs d'onde de la lumière à l'origine des crises d'épilepsie. Donc on estime qu'environ une personne sur 4000 souffre d'épilepsie photosensible, avec des crises pouvant être déclenchées par différentes sources, donc écran, stroboscope, néon, lorsque la lumière qu'elles émettent présente une certaine intensité, fréquence et longueur d'onde. Dans le cadre de travaux publiés dans la revue Cell Reports Physical Science, Des scientifiques des universités de Glasgow et de Birmingham ont dévoilé une paire de lunettes visant à réduire ce risque. Leurs verres sont spécifiquement conçus pour bloquer les ondes lumineuses comprises entre 660 et 720 nanomètres, impliquées dans le tristement célèbre incident Pokémon, qui avait envoyé près de 700 enfants japonais à l'hôpital en 1997. La monture des lunettes intègre un minuscule circuit chauffant. Lorsque les verres qui contiennent des cristaux liquides atteignent une température de 36,5 degrés, leurs propriétés optiques changent et les amènent à réfléchir ces longueurs d'onde problématiques du spectre lumineux. Donc selon des chercheurs, ces dispositifs pourraient être portés comme des lunettes classiques et activés lors d'activités à risque, comme les jeux vidéo ou encore la télévision, afin de prévenir les crises. Les prochaines étapes consisteront donc à réduire le temps nécessaire à l'activation des lunettes et à étendre leur plage de fonctionnement thermique. Si des verres teintés avaient été précédemment développés, les auteurs de la nouvelle étude expliquent qu'ils ne filtraient que 50% de la lumière rouge ciblée et affectaient en permanence la perception des couleurs.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Voilà, du coup c'est ce qui va terminer l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pourrez me retrouver lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sinon, on se retrouve vendredi prochain de 18h30 à 19h, c'est ça, sur Neptune pour une nouvelle émission Cordialement Geek. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.